Une fleur dans un champ d'herbe par Richard Keller, chapitre 19. Les gendarmes, habitués aux visions macabres, sont malgré tout secoués. Le corps putréfié a glissé comme s'il voulait s'extraire du ballot. Aucun n'ose s'approcher. Les hommes restent à plus d'1,50 m du cadavre. Le périmètre de sécurité est élargi. La protection du plus petit indice est primordiale dans l'attente des spécialistes du laboratoire de la gendarmerie. Ils indiquent au maire et à Léonce qu'ils ont informé le service spécialisé. Une équipe est en route. Le dossier ne présentant pas un caractère d'urgence absolue, les collègues arrivent par voie routière. Compte tenu de la distance et de l'état des routes, ils devraient arriver dans moins d'une heure. À leur demande, le berger verrouille l'entrée de la bergerie. Pour l'instant, l'arrivée des hommes en uniforme dans leur véhicule bleu est passée inaperçue. Il emmène le groupe jusqu'à l'appartement, propose un café. Cela permettra de détendre l'atmosphère et de se tenir au chaud, c'est préférable. Aucun n'a envie d'attendre les spécialistes dans l'étable, à proximité du corps en décomposition. Après avoir absorbé leur café, les gendarmes procèdent à l'audition des époux Armand. Léonce est le premier à être entendu. Les questions sont simples et tournent pour l'essentiel autour des ballots d'ensilage. Toutes les réponses sont notées. Ils veulent s'imprégner des heures qui ont précédé la lugubre découverte. Insistent pour connaître avec précision l'identité de toutes les personnes ayant pu pénétrer dans la bergerie. L'origine de la balle est aussi abordée. Léonce explique que c'est le cousin de son épouse, Ghislain, qui s'occupe chaque année de l'approvisionnement pour l'hiver. Toute l'activité et l'emploi du temps de l'éleveur sont passés au peigne fin. Il s'efforce d'apporter le plus de précision possible dans ses réponses. Martine, à son tour, est interrogée. Un grand nombre de questions sont identiques à celles posées à son époux. Il s'agit de vérifier la véracité de certains propos. Malheureusement, elle n'est pas d'un grand secours pour les enquêteurs. Les moutons, c'est le travail de son époux. En cette saison, il est omniprésent et, en conséquence, elle se rend rarement dans l'étable. Ces jours-ci, elle y est allée uniquement pour l'aider à sélectionner les bêtes qui participent à la crèche vivante. À cette occasion, elle n'avait rien remarqué d'anormal. Cela fait plus d'une heure et demie que les gendarmes discutent avec les époux Armand et le maire quand les spécialistes arrivent enfin. Deux hommes en civil, avec de grosses mallettes, sortent d'une berline banalisée de marque Peugeot. Ils saluent brièvement l'assistance et demandent où se trouve le corps. Léonce ouvre la marche. Il dirige le cortège vers sa funeste trouvaille. Déverrouille la porte et tous pénètrent dans les lieux. Le spectacle du ballot d'herbe isolé avec le cadavre au bord prend aux tripes. Les hommes, bavards avant l'entrée, se sont tus. À la demande des spécialistes, le berger écarte les barrières. Les deux hommes s'approchent. Ils ont revêtu des masques, une blouse et des gants de couleur blanche. Une housse transparente recouvre leurs chaussures. Chacun a ouvert sa mallette et, avant de toucher quoi que ce soit, il scrute les alentours, regarde chaque objet disposé autour du ballot. Ils étalent enfin des produits, des poudres et des réactifs, à la recherche d'éventuelles empreintes. Ils s'accroupissent à côté du cadavre. Le plus grand déclare « Il s'agit d'un enfant ». Un tel état de décomposition me fait supposer qu'il y a plusieurs mois qu'il est là. Ils effectuent des prélèvements, ponctionnant aussi quelques brins d'herbe. S'il ne s'agissait d'un cas aussi morbide, Léon, plus abattu qu'au moment de la découverte, serait admiratif devant le métier de ces hommes. Le fait d'apprendre que le cadavre est celui d'un enfant a jeté un froid supplémentaire. À la demande des spécialistes, les gendarmes apporte un grand sac en plastique blanc. Le corps reste uni grâce aux vêtements. Le linceul déplié attend son occupant. Les hommes réfléchissent durant quelques secondes. Ils veulent glisser le corps sans le secouer. L'option choisie semble être la plus judicieuse. Deux hommes ont pris des fourches servant à dispatcher la paille. Avec des gestes coordonnés, ils ont disposé les dents des fourches dans l'herbe sous le corps. Ils prennent une bonne quantité de cette litière sur laquelle repose la dépouille. L'opération, parfaitement synchronisée, permet de disposer le tout sur le sac. Il ne reste plus qu'à le fermer. Le déplacement du cadavre accentue la puanteur dans l'étable. La fermentation a dû accélérer la décomposition. Le sac mortuaire est évacué vers le véhicule tout-terrain des gendarmes. Tout le monde en profite pour aller respirer de l'air pur. Martine et Léonce n'ont pas dormi de la nuit. Ils ont vécu un cauchemar. Sans cesse, les images du squelette de l'enfant sont revenues hanter le berger. Elle, qui n'avait pas vu le macabre spectacle, s'est imaginé des visions apocalyptiques. Elle se retrouve en sueur dans son délire cauchemardesque. Le cadavre l'invite à passer un moment avec lui. Elle n'ose se confier à Léonce. Chacun endure un enfer dans les ténèbres de la nuit. Il se lève au petit matin, bien avant le lever du jour. Les gendarmes les ont longuement interrogés. Le premier interrogatoire s'est avéré une simple formalité. Le second se révèle particulièrement éprouvant, jusqu'aux questions touchant l'intime. Rien ne leur est épargné. Ils répondent avec franchise aux enquêteurs. Ces derniers insistent sur la tenue vestimentaire du gosse. Les époux Armand n'ont jamais vu ces habits auparavant. La catastrophe s'est poursuivie dans la bergerie. Les investigateurs du service scientifique ont emporté l'enveloppe en plastique de la balle d'herbe. La mort dans l'âme, Léonce, a assisté impuissant à l'ouverture de tous les autres ballots présents dans le hangar, jouxtant l'étable. Il souhaitait s'assurer qu'il n'y avait pas d'autres macabées dissimulés au milieu de l'herbe ensilée. Il s'est demandé ce qu'il allait faire avec une telle quantité à l'air libre. Il lui faudra rapidement contacter ses collègues pour essayer de leur échanger afin de limiter la casse. Les gendarmes n'ont pas fait d'autres découvertes. Ils ont autorisé Léonce à disposer de la bergerie comme à son habitude. Il n'a pas le cœur à l'ouvrage. Il a été secoué, sonné, à l'instar d'un boxeur qui vient de livrer le combat de trop. Il évolue mécaniquement, par réflexe. Martine est partie plusieurs fois aux toilettes, victime de nausées. Camille Chenot tente de remonter le moral vacillant de son ami. Hélas, malgré ses efforts, la tristesse s'est incrustée dans les esprits. Ils discutent, changent de sujet de conversation pour s'éloigner de la morbidité de la situation. Le loup n'arrive pas à accrocher l'attention du groupe. En désespoir de cause, le maire devient aussi taciturne que le reste de l'assemblée. Martine et Léon sont silencieux devant les grands bols de café chaud. Le cœur n'y est pas. Face à face, ils ne se parlent pas. Ils se fixent intensément. C'est par le regard qu'ils communiquent. Ils se disent « qu'avons-nous fait pour mériter de tels moments ?» Dans leurs yeux se conjuguent le désarroi, la tendresse et l'espoir. Il faudrait des torrents de mots pour expliquer la communion qui brille au fond de leurs prunelles. Ils ne mangent rien, l'appétit est en panne, ce soir ils ne réveilleront pas. La société Lachenose est une très vieille entreprise. L'aïeul, fondateur de la dynastie, était maréchal ferrant. La forge existe encore. Édouard Lachenose, le PDG de la maison, a fait aménager l'atelier en musée. Et l'été, un grand nombre de touristes aiment à se plonger dans la France rurale d'avant la société de consommation. L'homme porte beau ses 71 printemps. Pur savoyard, il n'a jamais quitté ses montagnes. Il s'est essayé à la politique. Son manque de diplomatie l'a dissuadé de continuer l'aventure. Et il se contente d'un fauteuil de conseiller général. Son implantation et sa connaissance du terrain en font un interlocuteur incontournable quand il s'agit d'aménagement montagnard. habitué à fréquenter tous les milieux, la venue des gendarmes ne le surprend pas le moins du monde. Ce lundi 24 décembre, il est seul dans les locaux de la société. Le personnel bénéficie d'un jour de congé, la veille de Noël. C'est une tradition chez Lachenoz. Les enquêteurs souhaitent connaître la version de M. Lachenoz concernant les ballots d'herbe d'ensilage et le fourrage livré à Léonce Armand. Il confirme que tous les ans, l'ami Léonce négocie avec Ghislain Milliaz les quantités et les tarifs. Mais avoue qu'il n'en sait pas plus, car il ne s'occupe pas de la comptabilité de l'entreprise. Si les gendarmes y tiennent vraiment, il peut appeler Madame Pedretti, la comptable. Il l'a aperçue il y a moins d'une demi-heure en ville. Le chef Ruaz acquiesce. Édouard Lachenoz compose un numéro de téléphone. Il échange quelques mots et raccroche. Madame Pedretti sera ici dans 3 minutes. Julie Pedretti a le physique de l'emploi. Petite, rondouillarde, elle doit manier les chiffres avec sérieux, se dit le chef de gendarmerie. À la demande de son patron, elle met en marche les ordinateurs. La réponse à la question ne tarde point. Une livraison de 4 tonnes d'herbe et de 8 tonnes de fourrage figure à la date du 4 octobre. Le chauffeur-livreur s'appelle Ghislain Milliaz, le cousin de Martine Armand. Ce point éclairci, les enquêteurs souhaitent obtenir la provenance des produits livrés et posent la question sur la traçabilité. Édouard Lachenoz réagit promptement. Il déclare qu'actuellement, aucune machine agricole n'est équipée pour étiqueter les ballots de foin. Techniquement, il ne s'agit que d'une adaptation mineure. Il suffit de légiférer sur le sujet. Il trouve cependant que ce type de mesure ne lui paraît pas justifiée. Le chef réitère sa demande. Lachenoz s'excuse de ne pas avoir répondu clairement. Il peut donner la liste de ses fournisseurs, mais ne peut pas identifier précisément de quel lot provient la marchandise livrée à Léon. Madame Pedretti débloque la situation. Pour le fourrage, c'est un peu compliqué. Mais pour l'herbe, nous n'avions plus de stock. Nous avions réceptionné la veille de la livraison des camions. Il ne peut s'agir que d'un ou plusieurs de ses approvisionneurs. Le chef apprécie le propos de la comptable. Elle ne manque pas de bon sens. Avant d'aller plus loin, il lui demande si les ballots étaient différents. Elle lui répond que toutes les balles d'herbe possèdent la même enveloppe plastifiée de couleur verte. Il existe d'autres coloris, notamment noir et beige. Il est rare d'avoir ce type de ballot dans l'entreprise Lachenoz. Elle propose d'imprimer les coordonnées des 3 fournisseurs d'herbe d'ensilage. Un exploitant se situe dans le Cantal, les 2 autres en Normandie.